Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Imaginez que nous soyons en 2041. Qu'est-ce qui, à partir de nos connaissances d'aujourd'hui, peut nous permettre de lever le voile sur ce futur relativement proche ? C'est le thème d'une série que vous pouvez retrouver dans Les Échos. Et pour aborder l'un des thèmes de ce thème, on met le cap sur Mars. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et nous allons voir pourquoi la conquête de la planète rouge, même dans le futur, n'est décidément pas une mince affaire. Automne 2041, alors que sur Terre le lointain successeur de Franklin Delano Roosevelt supervise depuis la Maison Blanche les préparatifs du centenaire de Pearl Harbor, sur et autour de la Lune, la coopération bat son plein entre les astronautes américains et japonais, mais aussi canadiens et européens. C'est par ces mots que débute l'article de Yann Verdeau, journaliste science aux Échos. Alors Yann, doit-on comprendre qu'avant même de fouler le sol martien, les humains de dans 20 ans se sont assurés de reprendre pied sur la Lune ?
Oui, exactement. Et ce retour sur la Lune, il faut savoir que la Lune, c'est quand même 1000 fois plus près de la Terre que Mars. Ce retour sur la Lune a été une étape cruciale dans la mise en œuvre du projet d'envoyer des hommes sur Mars, car la Lune a servi dans ces décennies 2020-2030 d'avant-poste et même, comme on va le voir, de station-service sur le long chemin des hommes jusqu'à Mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces deux décennies, puisque je rappelle que donc on se place dans la perspective où on est en 2041. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ça a commencé en 2024, c'est-à-dire 17 ans plus tôt. En 2024, conformément au plan annoncé par un certain Donald Trump en 2019, et un peu contrairement à tous les pronostics, deux Américains, un homme et une femme cette fois, ont repris pied sur le sol de la Lune. Ils ont passé 6 jours et demi à la surface de la Lune, tout près du pôle sud, sous les yeux des téléspectateurs du monde entier. Alors, ce comeback on the moon s'est fait dans le cadre de la mission Artemis 3. Donc, en 2024, c'est 55 ans après Neil Armstrong et Buzz Aldrin d'Apollo 11 et 52 ans après la dernière mission Apollo 17, qui était en 1972. Donc ça veut dire que ça faisait 55 ans que la Lune n'avait pas reçu la visite d'êtres humains. En 2024 également, la même année, quelques mois plus tôt, on a commencé d'assembler dans l'espace les deux premiers modules de la station orbitale lunaire Gateway, station qui sera appelée donc à jouer un grand rôle dans la conquête ultérieure de Mars. Alors, les deux premiers Moonwalkers de l'ère Apollo, et puis les missions Artemis 4, 5, etc., qui ont succédé, ont vraiment rallumé la flamme pour la conquête spatiale dans le cœur des Américains. Et ça a provoqué un enthousiasme public assez important, au point d'ailleurs de faire craindre à la NASA que le Congrès et la Maison Blanche se satisferaient de ce beau coup politique, c'est-à-dire d'avoir replanté le Stars and Stripes près du pôle sud lunaire et rechigneraient du même coup à dépenser beaucoup d'argent pour aller jusqu'à Mars. Mais la NASA a tenu bon et a obtenu les crédits nécessaires et donc le projet a été engagé.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
en quoi les missions Artemis ont-elles préparé le chemin jusqu'à Mars ?
Alors, ces missions Artemis, elles ont été très importantes puisqu'elles ont permis de construire, d'étoffer cette station orbitale lunaire Gateway dont je parlais, qui donc au départ ne comprenait que deux modules et qui, au fil des années, maintenant en 2041, en compte une dizaine à peu près, ce qui en fait une réplique en plus petit de la station spatiale internationale qui est en orbite autour de la Terre. La différence majeure étant qu'elle est en orbite autour de la Lune. Et puis, alors, parallèlement à la construction de cette station Gateway, des robots téléopérés soit depuis la Terre, soit depuis les astronautes à bord de la station, ont construit à la surface de la Lune, toujours près du pôle sud, une petite base lunaire, une sorte d'outpost lunaire. Et cet outpost lunaire est une composante cruciale, là encore, du projet Mars, parce qu'elle est dotée d'une usine de production de ressources et de carburant. Parce que faut-il pour envoyer un équipage humain jusqu'à Mars ? Il faut d'abord de l'eau. On a tous besoin pour vivre et les astronautes aussi. Pour un équipage de 6 personnes parties pour une croisière de 18 mois autour du Soleil jusqu'à Mars, il faut compter à peu près 10 tonnes d'eau. En plus de l'eau, il faut des carburants. Des ergols, comme on les appelle. En l'occurrence, c'est un mélange d'oxygène et de méthane liquide. Eh bien, à la fois cette eau et ces carburants nous ont été fournis par la Lune. Alors, comment ça s'est fait ? Grâce à cette petite usine robotisée construite près du pôle sud, les ingénieurs et les scientifiques de la NASA et de ses agences partenaires, parce que la NASA ne s'est pas lancée dans le projet Mars toute seule, elle l'a fait en faisant appel à ses partenaires historiques que sont l'Agence spatiale européenne, l'ESA, la JAXA, qui est l'agence japonaise, et puis la Canadian Space Agency. C'est un projet tellement énorme que seul un consortium de nations peut le mener à bien. Donc, la NASA et ses partenaires se sont servis de la glace d'eau présente en abondance dans les cratères, au fond des cratères lunaires, et notamment les cratères situés près du pôle sud, pour obtenir cette eau liquide dont auront besoin les astronautes qui iront sur Mars, mais aussi les carburants, ce fameux mélange d'oxygène et de méthane liquide dont je parlais. Puisque, en fait, pour obtenir l'oxygène et le méthane liquide, il suffit de casser les molécules d'H2O, en hydrogène d'une part, H, et oxygène d'autre part, O. Et puis, il faut rajouter, pour avoir le méthane, il faut rajouter du carbone. Et ce carbone peut être tiré, a été tiré, en l'occurrence, dans le scénario que je décris, de la matière organique d'origine cométaire présente dans cette même glace d'eau. Donc, la Lune a fourni, en fait, tous les éléments chimiques nécessaires pour la production de ces ergols. Et c'est ainsi que la Gateway a été appelé à devenir la station-service du véhicule, du vaisseau, qui sera destiné à envoyer un premier équipage humain vers Mars.
Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort.
L'espace n'est pas très coopératif.
La planète rouge se rapproche d'une certaine façon, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on sait d'elle qu'on ne sait pas 20 ans plus tôt.
Nous sommes, donc je le rappelle, en 2041, et 10 ans plus tôt, il s'est produit un autre événement important, qui a été le retour sur Terre des échantillons de sol martien, qui avaient été collectés par le rover Perseverance au début de la décennie 2020, et puis qui ensuite ont été rapportés sur Terre, où ils sont arrivés donc en 2031. Et ces échantillons, qui ont été amenés directement dans un laboratoire P4, ont été analysés pendant des années par une équipe internationale de scientifiques, et ces analyses ont révélé deux choses tout à fait importantes. La première étant que le sol de Mars ne contient plus rien de potentiellement toxique pour l'homme. Et la seconde, qui est la plus importante de très loin, et là je me place encore dans un scénario optimiste, on va dire, la seconde, c'est qu'on a découvert les traces d'une forme de vie qui a existé à la surface de Mars. Qu'est-ce qu'on a découvert dans ces échantillons ? On a découvert des sortes de fossiles de bactéries, quelque chose qui ressemble un peu à des stromatolites, comme on les connaît sur Terre, sauf que là, en l'occurrence, ce sont des sortes de stromatolites martiens. Et donc, même si cette forme de vie est morte depuis des milliards d'années et n'est plus présente qu'à l'état de fossile, c'est quand même une découverte majeure. C'est sans doute même la découverte la plus importante de ce premier demi-siècle. Et la NASA a su, comme à son habitude, très habilement communiquer là-dessus pour forcer un peu la main au Congrès et obtenir les dollars nécessaires pour la mise en œuvre du projet martien. Et des dollars, il en a fallu, parce que pour arriver là où on en est en 2041, ils ont déjà dépensé 400 milliards de dollars. Et le chemin n'est pas fini.
400 milliards de dollars, c'est une somme énorme. À quoi a servi tout cet argent ?
Une bonne partie de ces 400 milliards a été engloutie dans la construction et l'assemblage du vaisseau destiné à envoyer les hommes vers la planète rouge. Alors ce vaisseau, c'est une sorte de gigantesque train spatial qu'on appelle le Mars Transfer Vehicle, MTV, qui est long de près d'une centaine de mètres et qui pèse pas moins de 300 tonnes. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose même de tellement énorme qu'il est bien sûr inconcevable de faire décoller un tel vaisseau depuis la Terre, et la seule possibilité, en fait, c'est de l'envoyer en pièces détachées, si je puis dire, module par module, et puis d'assembler ces modules en orbite terrestre basse, comme on l'a fait d'ailleurs pour la Station Spatiale Internationale. Donc l'envoi de ces différents modules a nécessité plusieurs tirs de fusées. Les deux lanceurs lourds dont dispose la NASA, à la fois son propre lanceur lourd SLS et la Starship de SpaceX, ont été tirés à plusieurs reprises pour envoyer ces modules du MTV en orbite terrestre basse. Et là, ces modules ont été assemblés. Et puis, ce train spatial a ensuite rejoint la base lunaire, la Gateway, où il a fait donc le plein en ressources et en ergol. Il s'est amarré à la Gateway, il a fait le plein de carburant et il a pris à son bord les 6 hommes et femmes d'équipage qui ont été sélectionnés pour cette première mission humaine à destination de Mars. Et donc, il a mis le cap avec ces 6 hommes et femmes à bord vers la planète rouge en faisant un long détour qu'il a fait passer autour du Soleil, parce que ce n'est pas une trajectoire rectiligne hein, pour aller de la Terre jusqu'à Mars. C'est quelque chose, au contraire, de très circulaire. Et donc, ces 6 hommes et femmes, qui eh bien, sont les premiers humains à être envoyés au voisinage d'une autre planète que la Terre, ça n'a encore jamais été fait, sont partis pour une croisière de 18 mois, une croisière dont l'apogée a été un survol de la planète rouge. Ils ont survolé Mars sans s'y arrêter et ils sont repartis ensuite en direction de la Terre. Donc ça a duré un an et demi. Au cours de cette année et demie, ces 6 astronautes ont subi la microgravité, la pesanteur qui règne dans l'espace, donc qui les a obligés à faire des exercices physique quotidien pour limiter la fonte musculaire. Et pendant cette année et demie, ils ont également été exposés aux radiations cosmiques qui sont à la fois d'origine solaire et galactique et qui provoquent des mutations de l'ADN, donc qui peuvent potentiellement causer des cancers. Alors, dans mon scénario, ce premier voyage à destination de Mars, simple survol, eh bien, ce vaisseau est parti en 2034 et est revenu sur Terre en 2036.
Après ce simple survol qui est déjà une performance, quelle a été l'étape suivante et comment ces difficultés ont-elles été surmontées ?
L'étape suivante, ça a été de se mettre en orbite autour de Mars. Et ça, c'est plus compliqué parce que ça nécessite plus de carburant. Parce que pour se mettre en orbite autour d'une planète, Mars en l'occurrence, il faut décélérer. Et cette décélération brûle beaucoup de carburant. C'est pourquoi la seconde mission humaine qui a été envoyé vers Mars, a nécessité la construction d'un second Mars Transfer Vehicle encore plus gros et encore plus massif que le premier, puisque ce second MTV pèse 500 tonnes et non 300. Et puis alors, surtout, il a fallu préalablement construire une station orbitale martienne pour accueillir les 6 astronautes membres de l'équipage de cette seconde mission. Et ces 6 astronautes y ont passé 550 jours en orbite autour de la planète rouge. Pourquoi 550 jours ? Ça, c'est tout simplement dû aux contraintes imposées par le balai des planètes autour du Soleil. Cette ronde des planètes fait que seules certaines fenêtres favorables permettent d'envoyer un vaisseau vaisseau d'une planète à l'autre. Et donc, une fois qu'on est sur Mars, on ne peut pas revenir quand on veut. Il faut attendre un certain temps avant que s'ouvre une fenêtre favorable de retour. Cette station orbitale martienne a été construite un peu de la même façon que la station lunaire Gateway. J'ai choisi de la baptiser Harmonia. C'est un nom que je soumets aux autorités de la NASA. Elle a été construite, là encore, module par module. Ces modules ayant été acheminés par des remorqueurs spatiaux, des Space Tug, qui ont été envoyés à destination de Mars après la mission humaine de simple survol. Ces remorqueurs spatiaux ressemblant beaucoup au train spatial qui a emmené l'équipage humain, si ce n'est qu'ils sont dotés d'un système de propulsion différent, un système de propulsion électrique et non pas chimique, comme j'ai expliqué pour le train spatial humain. Pourquoi un système de propulsion électrique? C'est un peu plus lent, mais ça permet d'acheminer des charges plus lourdes.
Alors maintenant, en 2041, quelle sera l'ultime étape et comment sera-t-elle menée?
Alors, donc, nous sommes arrivés en 2041. Une première mission qui était un simple survol a été envoyée en 2034, 10 ans après le retour sur la Lune. Une seconde mission avec un séjour en orbite de 550 jours est partie toujours de la Gateway lunaire en 2039. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire descendre des astronautes sur la surface de la planète rouge. Alors, mais pour ça, il faut ajouter une dernière composante clé au programme martien. Et cette dernière composante, eh bien, c'est tout simplement le vaisseau qui permettra de descendre et de remonter de la surface de Mars. Et cette dernière étape, avant qu'on ait un Neil Armstrong martien, est la plus difficile sans doute. Dans mon scénario, ce Descent and Ascent Vehicle, comme on l'appelle, le DAV, donc qui permettra cette première sortie, on appelle ça une sortie, sera une aile planante. Alors une aile planante, ça veut dire que ça ressemblera de moins du loin à l'antédiluvienne navette spatiale, si ce n'est que cette navette-là se posera debout à la verticale, à la surface de Mars, et comportera deux étages, dont seul le second, l'étage supérieur, remontera après pour renvoyer les hommes et les femmes jusqu'à la station orbitale Harmonia. Et au moment de la descente, les réservoirs de ce second étage seront vides de tout carburant. Toujours pour la même raison, pour gagner de la masse. Donc, ça veut dire que, comme pour la Lune, il aura fallu préalablement construire une station de production d'ergol à la surface de Mars pour, là encore, fabriquer le méthane et l'oxygène liquide in situ avec les ressources martiennes, selon le même procédé que celui que j'ai décrit rapidement pour la Lune. Alors, j'ai fait l'hypothèse que en 2041, ce chantier de construction de cette usine martienne venait d'être lancé et qu'il était en cours. On estime que cette usine de production d'ergol, à partir des ressources in situ, les différentes composantes de cette usine, ça pèserait à peu près 3 tonnes. Et en revanche, il faudra au moins 30 tonnes d'oxygène et de méthane liquide pour permettre aux hommes et aux femmes descendus à la surface de Mars de remonter jusqu'à la station orbitale martienne. Donc, vous voyez qu'on est dans un rapport de 1 à 10. Donc, même si ça peut sembler compliqué comme ça, ça vaut le coup. Et en tout cas, donc, c'est l'option qui, dans mon scénario, a été retenue par la NASA pour la fabrication de ce Descent and Ascent Vehicle, ce DAV, qui n'est pas encore baptisé. Donc là, je lance un appel à tous nos auditeurs pour suggérer un nom pour ce vaisseau qui emmènera des hommes à la surface de Mars. 4 hommes et femmes, 6 en tout, 6 qui partiront pour cette troisième mission, 2 qui resteront à bord de la station orbitale, 4 qui descendront et qui seront appelés à entrer dans l'histoire. Reste à savoir qui ils sont.
Yann, de ce scénario à la réalité, il n'y a que du temps qui nous sépare ?
Alors, il n'y a pas que du temps, il y a du temps et de la volonté politique. Si la volonté politique est là, les financements seront trouvés et probablement que toutes les difficultés techniques, tous les obstacles techniques qui s'échelonnent sur le chemin de la Terre à Mars seront les uns après les autres surmontés. S'il n'y a pas de volonté politique et de soutien de l'opinion publique, ça sera beaucoup plus compliqué.
En 2041, Mars pourrait devenir une réalité, ou bien pas. Merci à Yann Verdeau pour cette projection dans la possibilité de la conquête d'une planète aussi mystérieuse et inaccessible qu'une diva. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.